parler comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
Mmh, c'est bon. Mmh.
Salut Estherelle.
Bonjour, bonsoir Régis.
Comment tu vas?
En pleine forme.
Dominique, regarde, il est là.
Ah voilà, j'arrive.
Ça va?
Bien, le temps de me garer, mais là vous nous emmenez quoi, dans le 13e, c'est
oui.
Ça? Je pensais que c'était uniquement des restaurants asiatiques au final.
Et non, pas que Dominique, figure-toi, parce qu'on est devant la devanture d'un bistrot très particulier, Estherelle.
On est chez Tempero, c'est le bistrot d'Alessandra Montagne.
Alessandra Montagne, et elle a dressé une sacrée table de fête, rien que pour nous, pour un réveillon qui va nous réveiller.
On y va.
On y va. Bonjour.
Bonjour. Bem-vinda, bienvenue chez Tempero.
Bonjour Alessandra.
Hola.
Merci pour ton accueil.
Mais c'est moi qui te remercie. Comment ça va?
Ah, il fait chaud ici.
C'est la maison du bonheur. Alors, il y a beaucoup de choses à manger. Hein.
Eh ben,
là, j'espère que vous avez vraiment très faim. Hein,
parce qu'on a apporté notre estomac.
On est arrivé carrément à
jeun. Tout va disparaître.
Allons-y à table.
Ah oui, c'est... Allez, on y va.
Bonjour à toutes et tous. On va déguster Fête Noël avec quelques jours d'avance. Et c'est une chef qui nous fait le bonheur de nous accueillir dans son petit bistrot parisien. Elle est brésilienne, elle est pétillante, elle cuisine vachement bien, avec parfois quelques clins d'œil au Brésil. C'est Alessandra Montagne, ça va?
Oui, ça va. Bon dia, bonjour à tous.
Très content d'être ici, merci beaucoup de nous
accueillir. Merci, bienvenue chez Tempero.
D'autant que vous avez dressé, Alessandra, une belle table de fête dans votre tout petit bistrot nommé Tempero. 24
oui.
Couverts, des murs colorés, des jolies œuvres d'art. Rappelons que nous sommes rue Clisson, c'est bien ça?
Oui, nous sommes au 5 rue Clisson dans le 13e à Paris.
Vous nous avez préparé des plats festifs, mais aussi,
oui.
C'était un peu le cahier des charges, des plats bon marché, accessibles financièrement et techniquement,
oui.
Qui correspondent finalement à la belle cuisine bistrotière que vous servez ici quotidiennement pour vos clients.
Oui, c'est exactement ça. Donc aujourd'hui, on a deux types de volailles différentes. Donc
oui.
Le but, c'est de manger des vraies volailles, des volailles anciennes.
Génial.
Qui ont vécu au moins 180 jours.
Ouais.
Hein. Et on a des super légumes, on a...
N'en dites pas trop, il y aura même une petite surprise brésilienne.
Oui, il y a une petite surprise.
Et ça me fait très plaisir. Alessandra, on vous a laissé également carte blanche pour choisir le producteur de votre cœur.
Oui.
Qui va nous accompagner pendant tout ce moment de partage. C'est Franck Pontier, bonjour.
Bonjour à tous,
vous
merci.
Allez bien?
Oui, très très bien, un peu frisqué, mais bon, c'est la saison, qui veut ça, hein?
c'est ça.
C'est les fêtes qui s'approchent.
Vous êtes maraîcher en permaculture et vous venez de... Bah, pas si loin que ça.
Non, pas si loin que ça. On est vraiment aux portes de Paris, sur l'ancienne plaine des Vertus. Je viens de Saint-Denis.
De Saint-Denis, où il y a un formidable projet dont vous allez nous parler. Il s'agit d'une zone sensible. C'est le nom de ce bel écosystème, effectivement, aux portes de Paris. Et vous êtes arrivés les bras chargés de légumes. Et d'ailleurs, Alessandra s'en est tout de suite emparée. On va goûter ça pendant l'émission. Ce sont mes chroniqueurs qui sont avec moi. Vous les avez déjà entendus, Estherelle Payani et Dominique Hutin. Ça va tous les deux?
Bien.
Bah oui, du 9-3 au 1-3, on est bien là.
C'est ça. Estherelle, vous, alors vous avez décidé de jeter un petit coup de froid dans cette émission quand même.
Puisque là on était très au chaud avec Alessandra, moi je suis montée tout au nord pour faire un petit coucou à nos cousins québécois.
Très bien, avec plaisir pour une petite surprise sucrée que vous nous avez apportée. Et Dominique Hutin.
Ouais, moi j'ai regardé un petit peu la carte, je crois qu'il y a moyen de rendre hommage au métissage de la cuisine de Tempero, ce qui invite quand même à faire un grand écart. Voilà, un grand écart entre différents univers, des goûts, des couleurs, des choses comme ça. Alors moi, je ne vais pas aller dans le même sens qu'Estherelle. Je vais vous emmener cap au sud avec une appellation qui s'appelle vin sobre.
Ouais.
Un petit clin d'œil aux fêtes qui arrivent.
C'est ça, vous allez être sobre, c'est ça, pendant les fêtes, on vous fait confiance.
Surprise, surprise.
L'émission est réalisée par Laurent Thomas, avec à la technique Stéphane Beaufis et Georges Tau, Nadia Chougui à la préparation. Les recettes d'Alessandra Montagne ainsi que toutes nos infos pratiques sont d'ores et déjà en ligne sur franceinter.fr, à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Pour se mettre en appétit, Alessandra Montagne nous a concocté une petite surprise. C'est un petit nuage, un petit bisou brésilien. Moi, personnellement, j'en suis absolument fan. Est-ce que vous reconnaissez ça?
C'est des gougères?
Ah non, copine, c'est le pince du cake.
Et en même temps, la remarque d'Estherelle, gougère à la brésilienne.
On va respirer, on va rester zen.
C'est des petites boules, on va goûter
oui.
Ça.
Il faut manger chaud, ça
oui,
brûle un petit peu, mais c'est ça.
Oh.
Ah là là, c'est trop bon.
Quel bonheur.
Ah, c'est bon, hein.
Petite définition du pão de queijo, ça veut dire, en brésilien, en portugais, pain au fromage.
Pain au fromage, c'est exactement ça. J'ai la bouche pleine, c'est bon.
Il y a un petit côté élastique, et ça
c'est
lié à la présence du tapioca.
Voilà.
Croustillant avec un cœur extrêmement moelleux.
Extrêmement moelleux, grâce à la farine de tapioca, donc qui est en fait la farine de manioc, très très fine, sans gluten. une pure merveille.
C'est un régal.
Ah, c'est bon.
Est-ce que vous pouvez nous raconter, Alessandra, comment vous vous y prenez pour faire ces pao de queijo? C'est faisable à la maison?
Ah, c'est totalement faisable à la maison. En fait, j'ai gardé la recette donc, de ma grand-mère, de tout le monde, de la famille. Je n'ai jamais pesé, donc j'ai fait comme j'ai toujours fait à la maison.
Ça va arranger nos auditeurs, alors.
Donc, simple, vous prenez une cuillère à soupe.
Oui.
Vous faites 5 cuillères à soupe d'huile, 10 cuillères à soupe d'eau. Vous le faites chauffer. Une fois que c'est chauffé, vous versez sur 300 grammes de farine de tapioca. Vous allez voir la photo. C'est très facile. Ça se trouve dans les épiceries asiatiques et africaines.
C'est ce qu'on appelle le povilho.
Povilho. La fécule de manioc.
C'est ça.
Le secret, c'est que l'huile et l'eau doivent être bouillants. Sinon, ça ne marche pas. Mm-hmm. Voilà. Donc, une fois que ça boue, que c'est bouillant, vous versez ce mélange d'huile et eau bouillante sur la farine. Vous mettez une cuillère à café de sel, un yaourt, un œuf. Et une grosse poignée comme ça de fromage râpé. Vous mélangez tout, les boulettes, au four à 170 degrés pendant 17 minutes.
De l'emmental râpé bien français?
Oui, bien français comme
mais
il faut.
Mais parce qu'est-ce qu'on utilise comme fromage au Brésil?
Au Brésil, c'est le queijo Minas. Parce qu'en fait, c'est une spécialité de Minas Gerais, l'état où j'ai grandi.
Ben voilà, c'est tout simple, des pao de queijo. C'est bon ou pas, Franck?
C'est magnifique, hein, vraiment, c'est un petit goût magnifique. Ce petit croquant quand on démarre et après on est surpris par le moelleux à l'intérieur, tout chaud, c'est
bon, hein.
C'est bien de
c'est
saison.
C'est un vrai bonheur et on pourrait même goûter quelque chose avec ça, non?
Alors, ma super sommelière Marie Champard nous a proposé un petit vin incroyable.
Bonjour Marie.
Bonjour. Effectivement, moi je propose pour accompagner ces pannes des queijos un vin blanc, semi-oxydatif en fait.
Ah.
C'est pour éviter le côté trop puissant de l'oxydation, mais ce côté un petit peu rancio qu'on a dans ces vins-là permet vraiment d'accompagner très très bien le fromage.
Oui.
Et puis la texture un petit peu plus puissante hein, qu'une gougère française. Je trouvais que ça fonctionnait bien avec justement la puissance d'un savagnin. Un petit peu oxydatif, assemblé avec un chardonnay qui va lui conférer beaucoup de gras aussi, donc l'équilibrer.
On est sur
la bouteille Nuance, le nom de la cuvée, en 2015, de Jérôme Arnoux. Ben, je vais vous faire goûter. Hein.
Avec plaisir.
C'est intéressant, le Jura, c'est quand même une région qui était très longtemps confidentielle, un petit peu au large des autoroutes du vin. Et si vous aimez ce style de vin-là, il faut savoir quand même que grâce à ce petit côté retiré, on est quand même dans les petites montagnes, et ce sont des vins qui ont gardé une grande typicité avec des cépages qui leur sont propres, dont le savagnin que vous venez d'évoquer, qui donne cette espèce de goût, cet élan, ce goût très particulier.
On est la note oxydative, hein. Ça régale ce vin. Le budget pour un vin comme ça chez un caviste?
On est à peu près, ça va dépendre du caviste, mais entre 14 et 16 euros.
Un prix raisonnable, pour une belle bouteille de fête?
Tout à fait, parce qu'il y a vraiment un côté festif sur les vins un peu en oxydation.
C'est un sacré voyage olfactif, c'est un voyage gustatif qui est quand même assez étonnant. On a du curry, vous avez senti les épices, etc. Alors d'ailleurs, si jamais ça vous amuse, la percée du vin jaune, cette année, c'est le 1er et le 2 février 2020 dans le Jura.
Très
bien. Vous pourrez goûter tous les vins du Jura.
Et Dominique, vous avez peut-être une autre option pour escorter ces pao de queijo au pluriel, ça donne?
Pães de queijo.
Pães de queijo. On prend des cours de portugais, de prononciation.
Donc c'est maintenant que je massacre le portugais, vous voulez vraiment que je répète?
Allez-y.
Pas du tout. Non, je vais finir par la rime, ça rime avec apéro.
C'est une belle rime, en effet.
Non, évidemment, il y a une dimension apéritive et consacrée la fête de Noël, c'est bien, mais la renouveler, c'est un petit peu mieux. Et d'ailleurs, j'ai vu à votre carte, vous aviez un champagne de chez Bonnet Ponson. Qui est basé sur une vieille recette, on assemble les trois cépages traditionnels.
Tout à fait. C'est très typique de la Champagne.
D'ailleurs, on aurait pu tricher un peu et opter pour un champagne brésilien, parce que jusqu'en 2012, on avait... Ça fait marrer Alessandra.
C'est de la triche.
C'est de la triche. Mais les champenois se sont un petit peu fâchés, ils ont dit non, il faut arrêter le champagne brésilien.
Ah, et l'aventure s'est arrêtée.
Oui, il n'est de champagne qu'en champagne.
D'accord.
Voilà. Mais j'ai quand même un petit peu creusé le sillon, j'ai goûté pour vous 80 champagnes qui tous sont logés sous une idée, celle de la nouveauté. Donc vous ne goûterez que des avatars de 2019, des nouvelles cuvées, des nouveaux millésimes. Et puis, puisque les fêtes appellent l'œcuménisme, j'ai appliqué ça aussi à ma sélection. Donc, vous allez trouver des coopératives, des grandes maisons iconiques avec leurs grandes cuvées, etc. Et aussi des indépendants. Et j'ai retenu notamment Champagne François Lecomte, un extra brut, 2012, très grand millésime de la décennie. Je ne sais pas si c'est aussi fort que 1975 dont on a beaucoup parlé ces temps-ci.
C'est mon année de naissance, Dominique.
Oh, pardon.
Vous n'êtes pas seul, François Régis.
Ah oui, bien sûr, il y a ça.
François Lecomte. D'où est-ce qu'il nous vient? Il nous vient de Rilly la Montagne et ça vaut 16,60€. Et tout ça est en ligne. Vous le téléchargez sur France Inter. On va déguster.
Combien de cuvées bu et approuvées?
80, monsieur.
Ah oui, quand même. Vous êtes encore vivant, Dominique.
Quel professionnel.
Bah, c'est une bonne nouvelle. Dans un instant, Alessandra Montagne, bah, vous allez nous raconter votre parcours à succès depuis un petit village du Minas Gerais, ça c'est dur, Minas Gerais, l'état du Brésil dans lequel vous êtes né, jusqu'au restaurant étoilé de Paris. Mais juste avant, ça vous ferait plaisir, un petit rythme brésilien? C'est Alessandra qui va nous l'annoncer.
Un petit rythme de Saulo Duarte, Flor de Sonho, pour nous accompagner.
Et on va être obligé de se lever pour bouger nos corps. Faites-en autant à la maison, bonne fête sur France Inter. Chef Alessandra Montagne, réveille, le réveillon dont on va déguster. Merci beaucoup encore une fois de nous accueillir chez Tempero, Alessandra. D'autant qu'on a de la chance parce que c'est un scoop que vous allez nous livrer. Bientôt, vous déménagez.
Oui, voilà. Tempero devient nosso bientôt.
Pour les auditeurs qui voudraient venir, ils peuvent encore en profiter.
Ils peuvent encore en profiter, 6 mois.
D'autant qu'il faut insister sur un fait très précis, c'est que vous faites une cuisine à prix abordable. Vous avez d'ailleurs un menu à déjeuner dont le prix n'a pas évolué depuis des années à 17€.
17€, entrée plat ou plat dessert. On a mis un petit supplément pour le poisson parce qu'on achète chez Poiscaille. Donc on prend de très très bons poissons. Et puis après, je suis obligée de mettre un petit supplément pour qu'on puisse s'en sortir. Quoi.
C'est ça.
Mais je tiens à avoir un menu abordable.
Ça veut dire qu'au sein de votre clientèle, il y a une vraie mixité sociale.
Ah oui, bien sûr. J'ai des étudiants de la fac de Tolbiac, j'ai les chefs de service de la petite salpêtrière, j'ai les secrétaires qui travaillent à l'APEF, Association de paralysés de France. J'ai tout le monde pour venir manger ici.
Et en plus, vous faites un menu à 17€ avec des produits qui, pour la plupart, sont issus de l'agriculture éco-responsable, de l'agroécologie.
Bien sûr.
Et en plus, dans un rayon très proche de Paris, vous faites attention justement au bilan carbone des produits que vous utilisez en cuisine.
Oui, bien sûr. Franck, il a sa camionnette en électrique, il vient nous livrer ses légumes. Ces légumes-là, on les garde, les épluchures pour qu'ils puissent faire le compost. Moi, j'ai vu même mon staff arriver avec leur petit compost de chez eux. J'ai eu les larmes aux yeux. Je me suis dit, c'est super beau quoi, d'avoir cette conscience. Tout le monde fait attention à l'eau, on fait attention à tout.
Franck Bontier, depuis combien de temps vous travaillez avec Alessandra?
Avec Alessandra, on a démarré la ferme urbaine de Saint-Denis, la zone sensible, on a démarré en 2017, donc oui. On a travaillé ensemble en début 2018, le temps que l'on lance la ferme, ça fait deux ans,
un petit peu plus de deux ans. Ça veut dire que vous lui livrez des légumes chaque semaine ?
Tout à fait, chaque semaine, on fait notre tournée, et puis on suit la saison, on reste sur du légume vraiment saisonnier, donc c'est là où c'est que les légumes donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui a le meilleur goût, et puis Alessandra est là pour les sublimer complètement.
Et là, qu'est-ce que vous lui avez apporté comme variété de légumes ? On est
en plein hiver. Alors aujourd'hui, veille de fête, on est sur de la courge, sur beaucoup de variétés de courge. On est sur de la topinambour, on va être sur quelques fleurs qui restent encore un petit peu. On est sur de la tagette. Après, on va avoir de la ciboule, les derniers petits oignons nouveaux, avant que le gel fasse son travail. Et puis, on va pouvoir goûter tout ça.
Estherelle, vous étiez très intéressée par cet inventaire de courges.
Il y en a une sacrée belle variété. Il y a une longue de Nice. Alors, j'ai hésité une longue de Naples. On a eu un petit débat, mais non, c'est une courge longue de Nice qui est super sucrée. Il y a des courges un peu pointues aussi de la variété à cornes. Alors, il y en avait une que je ne connaissais pas. Il y avait un patidou. Vous me les faites
le
passer,
le patidou, absolument. Cette petite courge qui est blanche, nacrée, avec des zébrures vertes d'une taille d'un ballon de handball à peu près. Ça, c'est délicieux et très sucré. Oh là là, qu'est-ce qui vient d'arriver ?
Oh là là, là voilà.
Alessandra, racontez-nous. Alors là, ça y est, ça commence. Ça défile à la table de Tempero.
Miam. C'est la Géline, donc j'ai pris ça chez Adèle.
Adèle
champ de blé.
Champ d'avoine.
Champ d'avoine. Oui. Pourquoi j'ai du blé ? Adèle champ d'avoine.
Vous êtes juste trompé de céréales, mais c'est pas grave. C'est Adèle champ d'avoine qui élève effectivement des gélines bio de Touraine. Et on l'a reçue. Ceux qui nous écoutent l'avaient peut-être entendu dans une émission que nous avions enregistrée à Blois. Elle avait été diffusée le 13 octobre dernier. Elle fait un travail formidable.
Elle est incroyable. Elle
et
est
vous cuisinez
géniale.
Sa volaille.
Je cuisine sa volaille. Donc, j'ai rencontré Adèle il y a fort longtemps. Par le biais d'un des clients qui a une maison secondaire à côté de la ferme d'Adèle, Cointron sur le Perche.
C'est ça.
Donc c'était un coup de foudre amical et puis j'ai trouvé sa démarche tellement belle et c'est tellement touchant. Elle me disait encore hier qu'elle travaille 50 heures par semaine, qu'elle fait ça vraiment par passion. Une volaille comme ça qui vit 180, 220 jours.
Oui, en termes de rentabilité.
Elle est très petite, sa rentabilité, peu chère. Et puis elle m'a dit qu'à côté de chez elle, il y a trois bâtiments de volailles qui vivent 30 jours. Il y a les camions qui partent, qui repartent, qui reviennent. Et donc elle à côté, elle a du mal à s'en sortir. Donc je vous invite vraiment à faire attention à ce que vous achetez. Le luxe, en fait, c'est de faire vivre des gens qui sont à côté de chez nous. C'est d'acheter des vrais produits, c'est ça le luxe. C'est Absolument. Pas de manger du foie gras, du caviar, de la truffe.
On est bien d'accord avec ça. C'est pour ça qu'on est justement, on se situe dans l'approche d'un Noël à la fois extrêmement festif. Ça sent tellement bon, ça nous chatouille les narines et en même temps relativement bon marché. Même une volaille de très grande qualité et très bien élevée reste tout à fait abordable en termes de prix. Comment vous l'avez cuisinée cette géline bio Adèle champ d'avoine?
Alors, je l'ai fait dans une cocotte
en fond
au four.
Ouais.
Alors, on a mis dedans de la coriandre, du gingembre, de l'ail. On a mis du citron.
Ouais.
Et on a mis ça et on l'a laissé cuire pendant super longtemps, comme ça. Elle a cuit 1h30.
Oh là là.
Et regardez la beauté.
Avec la peau qui croustille.
Voilà.
Bon.
Pas trop fort de la température du four.
180.
Ah oui, quand même.
Pendant les premiers 45 minutes, ensuite on a baissé.
Ah.
Voilà.
On va la découper.
Oui, avec plaisir.
Pour la déguster, voilà. Le temps. Voilà.
Allez, on y va.
Alessandra est en train de découper cette géline. Oh là là, les chairs qui luisent, qu'on l'air bien moelleuse.
Regarde-moi la cuisse, comme elle est belle. Vous avez vu ça?
Superbe.
C'est magnifique, hein? Et Super. L'odeur, alors? Alors, qui aime quoi? Enfin, chacun son morceau préféré. Hein.
Moi, je suis ouvert à tout.
Les ailes.
Tant que c'est pas très loin d'un os, ça me va.
C'est marrant, il y a un Vietnamien qui m'a dit une fois qu'au Vietnam, le blanc va à la poubelle. Tout le reste, c'est bon, sauf le blanc.
Oh là là, quel crime! Oh, et qu'est-ce qui vient d'arriver? Des Eliantis, topinambour? De Franck?
Ah bah oui, bien sûr, qu'il a amené tout à l'heure.
Franck,
un petit peu de place.
Racontez-nous ces topinambours.
Là, on est sur de la fuseau blanche. Déjà, avant d'avoir ce magnifique tubercule,
oui.
Et on a une magnifique fleur. Déjà, on commence par ça. Mm-hmm. Et faut savoir que c'était un mets royal. Hein. C'était un mets qui était complètement adoré par Louis XIV. Et c'est pour ça que d'ailleurs, après la Révolution, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde l'a oublié et surtout tout le monde l'a repoussé. Après, on a eu la guerre. C'était l'unique chose qu'on pouvait encore manger pendant la guerre. Quand même assez difficile à digérer.
Assez difficile à digérer, oui. Bon. Et ça a ce goût caractéristique d'artichaut.
Exactement. C'est là où c'est que vraiment on retrouve l'artichaut. Et retrouver l'artichaut au mois de décembre, c'est quand même magnifique.
Difficile d'imaginer quand même que Franck Pontier n'est maraîcher que depuis deux ans, expert en permaculture, car vous êtes vraiment un reconverti.
Ah bah oui, complètement. J'ai passé plus de 25 ans à faire du paysage, à faire de l'ornemental, à faire plaisir aux yeux, commencer par les yeux. Et puis, plutôt que de faire des jardins, on peut très bien faire un jardin beau, mais aussi qu'on puisse le manger, tout c'est simplement.
C'est beau et bon à la fois.
Beau et bon, exactement. Et puis faire appel à tous les sens. Lorsqu'on travaille le jardin à la ferme sur l'hectare sur lequel on travaille sur zone sensible, on allie les deux. Moi, je suis 25 ans de paysage, j'aime travailler dans le beau. Oui. Sans compter qu'avec le beau, on va joindre des fleurs et puis travailler dans le beau et puis on va utiliser cette beauté. On va utiliser les fleurs, on va utiliser ces mix et ce mélange de cultures pour justement créer ce qu'on appelle de la lutte biologique.
De la lutte biologique, car votre terrain de jeu, ces zones sensibles, un projet incroyable aux portes de Paris. C'est vrai qu'on l'imagine bétonné de partout, la ville de Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis, le fameux 9-3, on est à portée de métro. Et là, il y a une espèce d'écosystème où vous êtes évidemment très sensible à la protection de la biodiversité, à travers notamment votre, méthode culturelle, mais c'est beaucoup plus que cela, une philosophie, la permaculture. Dites-nous quelques mots de cette permaculture, on en entend beaucoup parler, on ne sait pas toujours lui accoler une définition. En quoi consiste cette philosophie ?
Cette philosophie de la permaculture, elle est née déjà depuis les années 70. C'est Bob Mollison qui nous a importé ça d'Australie, qui a créé la permaculture avec 20 points différents. Mais les points vraiment essentiels à retenir sur la permaculture, c'est le lien qu'il y a avec l'écosystème. Le lien entre l'homme, remettre l'homme au milieu, au cœur de l'écosystème, oui. Mais en lien avec tout ce qui l'accompagne, c'est-à-dire les oiseaux, les limaces, les insectes, les prédateurs, les champignons. Mais tout le monde a cette place. C'est l'avantage aussi d'être sur Saint-Denis, hein. Saint-Denis, 130 nationalités différentes. Première chose qu'on a fait dans le champ sur nos tests, c'est 130 variétés différentes. Et le but, justement, c'est que tout le monde s'harmonise et que chacun trouve sa place. Et actuellement, dans le jardin, on est en troisième année de culture. C'est là où c'est qu'on voit, justement, que les insectes, le champ et aussi les citoyens qui nous entourent, on commence à vraiment rentrer dans la permaculture puisque notre écosystème est en train de se constituer.
Et vous êtes extrêmement productif. La quantité de légumes que vous avez apporté le prouve d'ailleurs. Ça veut dire que c'est aussi évidemment une méthode de culture qui fait ses preuves en termes de rendement.
Mais complètement. C'est pas parce qu'on travaille en permaculture et qu'on est soigneux avec la végétation et surtout nourrir son sol pour que les légumes nous le rendent bien. Mais on est en surintensif. On parle d'agriculture intensive, mais en permaculture, on est vraiment surintensif. Le champ ne se repose jamais puisqu'il doit toujours être occupé. Mais par contre, le soin apporté au sol, ça va être justement ce choix de végétaux. La façon dont on va apporter différents éléments de matière organique pour reconstituer ce sol au fur et à mesure que justement les légumes pompent dans le sol et que nous, ils viennent nous nourrir tout simplement.
Et vos légumes sont bien cueillis dans des sols vivants. D'ailleurs, il vous a apporté, vous les avez déjà transformés. Qu'est-ce que vous nous avez fait rôtir au four, Alessandra ?
Alors ça, c'est la courge.
Table queen.
On va la manger donc avec le miel béton. C'est une merveille.
Courge table queen.
Table queen.
On a très apprécié des anglo-saxons.
C'est ça. Elle est assez table ronde. Queen. Elle est côtelée, verte foncée.
Elle a une pointe surtout. C'est à ça qu'on la reconnaît. Absolument. Puisqu'elle fait partie des courges à cornes.
Tu veux de l'huile d'olive ?
Ça a des parfums de châtaigne.
Ah non, il y a le jus de la volaille qui est fou pour tremper dedans. Ça vaut toutes les huiles d'olive.
Oh là là, c'est proprement délicieux. Et cette volaille, alors un petit commentaire autour de la table.
Elle a de la mâche, la résistance. Quand on l'a découpée, il y avait l'os quand même qui résistait un peu. Parce que quand on découpe une volaille et que tout s'enlève tout seul de la chair, c'est pas forcément très bon signe. Hein. C'est soit qu'on l'a trop cuite, soit qu'elle a des articulations qui n'ont pas beaucoup couru.
Et justement, en parlant de cuisson, il faut rappeler que c'est une chair assez délicate qui mérite à ce qu'on ne la brutalise pas. En termes de, il faut opter vraiment pour des méthodes douces. Et je parle là de cuisson, je parle aussi de vin de la même manière. Doucement, respecter la volaille. Délicatesse.
Absolument. Et Alessandra, ce parfum un peu exotique, etc., il y a du gingembre.
Citron, coriandre.
Oui. Oh là là, coriandre. La feuille.
Et la tige.
Absolument.
On ne jette rien.
On ne parle pas de la graine de coriandre, mais on parle de l'herbe fraîche.
On parle de l'herbe fraîche, ouais, donc qui a été bien mixée. Donc Sandra, c'est elle qui a préparé la petite sauce tout à l'heure. On la cuit avec la sauce à l'intérieur, justement, pour que ça diffuse. Et ensuite, à la fin de la cuisson, on l'a sorti, on l'a mis à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que le poulet était hyper coloré, hyper beau, avec des petits points.
Pour saucer, là, un petit cube tout doré.
C'est dingue.
Avec des petites herbes.
C'est bon. De quoi s'agit-il ?
C'est de la polenta. Polenta, en fait, c'est mon plat d'enfance, polenta et gombo. Pour moi, c'est mon plat de Noël. Quoi.
Votre polenta, plat de Noël, voilà.
Polenta, gombo et poulet.
Noël entre la France et le Brésil. On peut c'est d'ailleurs ça. Arroser d'une petite bouteille. Peut-être que Marie a un petit conseil à nous donner.
toujours pour rester dans l'idée d'un vin accessible à tout le monde, assez facile à trouver, mais qui pourrait très bien fonctionner avec cette volaille pleine de saveurs, avec de l'ail aussi, hein, faut pas l'oublier, on a du gingembre, du citron, mais l'ail passe pas inaperçu.
Elle est assez caractérielle, cette volaille. D'ailleurs, j'en profite peut-être pour préciser à nos auditeurs la définition, la traduction de tempero, le nom du restaurant.
Ah, mais oui, épices, c'est les épices, ça veut dire ça en portugais.
Mais ça veut dire aussi relever la cuisine, l'assaisonner.
Donner du goût, voilà. Assaisonner, s'il vous plaît, mettez-moi de la chaleur du champ dans vos cuisines, mettez-moi des épices.
La vie, quoi.
Mettez-moi du tempero.
C'est ça, la cuisine de tempero ressemble au caractère de sa chef, il y a du tempérament.
Du coup, je pensais à une Syrah... pas boisé. Du coup, on va être sur la pureté du fruit, quelque chose de très juteux. Fruit noir avec ce côté poivré typique de la Syrah, mais qui part avec un petit peu d'ouverture sur ces notes florales, violettes, un peu pivoine. Donc moi, je trouve que c'est une Syrah de très jolie facture. On est dans le Gard. C'est Olivier Pichon. On est entre les Cévennes et la Camargue, en fait.
Très bien.
Donc le domaine de la Grange Saint-André, sur le millésime 2018. Mmh. C'est son deuxième millésime qui fait cette cuvée-là. Il s'est installé en 2015. Hein. Du coup, voilà, je trouve que c'est un vin frais, juteux, qui va ni agresser la volaille, mais ni non plus se laisser surpasser.
C'est vraiment le mot clé. Et c'est vraiment. Moi, j'ai triché, j'ai vu la bouteille.
C'est pas Dominique qui
tout à l'heure.
Ah, c'est
oui,
Dominique
c'est vrai.
Qui goûte
encore. Ah, bah, je sais pas.
Oui, mais voilà, je suis le goûteur officiel.
Nous, on peut pas, on a la bouche pleine.
Oui, voilà.
On déguste le poulet.
Franck,
on déguste
le poulet. Il a aussi envie d'un petit coup de Syrah, non?
Ah, bah, il faut l'accompagner.
C'est intéressant. Ce qu'a souligné Marie, c'est.
J'adore cette émission. Il faut m'inviter à chaque fois.
Transition toute faite vers les découvertes bachiques de Dominique Hutin.
On va déguster sur France Inter.
Oui, alors voilà, les verres se remplissent. Bon, ils vont peut-être se vider un moment aussi. On va voir comment ça s'enchaîne.
Ah, la petite aile, elle est trop bonne. Tu vois une?
C'est vivant, voilà, c'est vivant. Alors, on l'a dit, la volaille, il faut la respecter, c'est quand même quelque chose d'assez délicat. Et évidemment, le vin de Mister Pichon s'y prête bien. Il a un discours assez dépouillé, frais, et c'est assez franc du collier. Puis, en d'autres temps, il a produit aussi une autre cuvée qui s'appelle Marmot, qui coûte 7 euros. Avant, on appelait ça des vins de comptoir. Ouais, c'est goulayant, c'est facile à boire. Et alors, pour le plat-là, il y avait quand même un défi qui consistait à allier le soleil. Vous avez parlé de tempérament, vous avez parlé d'épices, de choses comme ça. Et puis aussi, pour rendre hommage aux origines d'Alessandra. Donc, on va mettre cap au sud. Ça, c'est un petit peu obligé. Mais pour autant, il faut garder de la fraîcheur pour contrebalancer aussi un petit peu la richesse du plat. Parce qu'on a quand même une sauce, on l'a peut-être pas assez dit, mais qui est quand même consistante, hein, qui nous emmène sur autre chose. Donc, il faut monter en altitude pour trouver cette fraîcheur. Altitude chère à notre Madame Montagne ici présente. Et on va trouver là-haut des vins qui vont allier le sourire du Sud et la fraîcheur. Deuxième point, tempero, on l'a dit, égale épice. Et ce cépage Syrah dont nous a parlé Marie tout à l'heure, ben, va nous emmener sur cette piste-là. Troisième chose, tempero, on l'a dit, réfléchit à sa politique de prix. Donc il faut être un peu vigilant sur ce qu'on va engager. Et une fois qu'on a dit tout ça, eh bien moi je me suis tourné vers une région qui représente peut-être l'un des meilleurs rapports qualité-prix de France, c'est le Rhône. Et si on récapitule, donc fraîcheur, altitude, épices, tous ces paramètres sont réunis dans la Drôme, dans une appellation qui s'appelle vin sobre.
Eh oui.
Eh oui, vin sobre. Vous vous en rappellerez, François-Régis, lors des mots. Vous voulez que je vous fasse un petit papier, un petit pense-bête? Donc on y trouve effectivement des vins abordables, qui sont à l'aise avec des cuisines qui sont métissées, qui jouent un petit peu à saut de continent, comme ça. Les fruits, la rondeur, la fraîcheur. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que bien qu'on soit dans la Drôme, où quand même le mercure peut monter, vin sobre est l'une des appellations les plus perchées de la région. Vraiment, on est en altitude, avec une situation étagée entre 200 et presque 500 mètres. Voilà. Donc, de la fraîcheur, finesse de tanin, et puis aussi une température basse la nuit, ce qui permet un peu de réfréner les ardeurs du soleil. Donc j'ai goûté pour vous, et voilà, j'ai pris sur mon temps de sommeil, cher ami, 40 cuvées, donc mais... un carnet de vigne.
Comment fait-il, ce garçon ?
Oui, mais c'est vrai qu'à Goncourt-en-Ville-Centre, il y a moins d'embouteillages, il y a moins de métro, donc j'ai un peu plus de temps pour en profiter, si vous voulez. Donc 40 cuvées de vin sobre, un carnet de vigne que vous allez pouvoir télécharger, comme d'habitude, gratuitement depuis notre site. Alors c'est logé entre 26 euros et le premier prix 6,95 € avec le vin d'une coopérative qui s'appelle Vin Sobraise. Et ça s'appelle Diamant Noir, cette cuvée. Peut-être une fine allusion à la truffe. C'est possible, on est dans la Drôme. Alors après, je peux en citer deux ou trois très rapidement, mais c'est dur de les départager. La Péclette, Chaumarnaud, Vinson, le Château de Vérone, Autran-Saint-Vincent, Tave, etc., etc. Tous ont une chance, c'est d'être passé par le millésime 2016, qui est naturellement équilibré. C'est d'une finesse, c'est tout à fait formidable. Et puis je connais la sensibilité de notre sommelière Marie Champard, qui nous a servi tout à l'heure, qui est amoureuse des vins nature. Donc j'ai convoqué un des vins, c'est Gramenon, Michel Aubéry.
Ah oui, bien sûr.
Une humble papesse du vin nature.
Qui nous écoute presque tous les dimanches, vous savez.
Qui nous écoute, oui, absolument, absolument. Et le hasard fait que sa cuvée s'appelle Papesse. 26 euros. Et un autre, Domaine Valo. C'est un domaine qui est beaucoup moins connu, moins dans les radars de la presse. C'est 11,50 euros les Hauts des Côtes. C'est un joli vin de fête. Il faut le carafer un petit peu, comme ça personne ne verra l'appellation. C'est une bonne surprise. Et puis, j'ai fait un petit calcul quand même, parce que là, je vous ai emmené cap au sud. Vin sobre dans la Drôme, c'est à 8576 km de Brasilia, la capitale du Brésil. Voilà.
Génial.
Mais oui, et 539 km de Paris.
C'est ça.
Mais heureusement, le verre, lui, n'est qu'à quelques centimètres de notre bouche.
Eh oui, ça c'est sûr, on vous le confirme. Mais en tout cas, on se régale avec cette volaille absolument extraordinaire dans ce petit bistrot Tempero. Précisons d'ailleurs, Alessandra, que vous avez ouvert Tempero le 8 mars 2012.
Oui.
Et ça, c'est vraiment une date que vous avez marquée d'une croix blanche dans votre calendrier.
Bah, c'était c'est le jour de mon anniversaire. C'était le hasard des choses, mais c'était merveilleux, quoi. En fait, j'ai fêté mon anniversaire, j'ai ouvert mon premier restaurant. C'est la journée internationale des droits des femmes. Et je me rappelle de ce jour. C'était magnifique d'avoir tous les gens que j'aime, de leur faire à manger. Et puis, c'est très beau. C'est très très bon, un souvenir incroyable.
Et l'aventure de Tempero continuera dans quelques mois chez Nosso, car c'est tous ensemble Nosso, notre,
c'est avec mon staff, Poro, et avec eux que j'ouvre ce restaurant.
Et on va justement vous prouver dans un instant que vous travaillez en équipe, que vous avez une brigade, une équipe extrêmement fidèle qui participe justement à ce petit écosystème
qui est là depuis toujours,
qui est Tempero, puisque on va faire trois pas dans un instant et se retrouver en cuisine avec votre second qui travaille avec vous depuis le début.
Depuis le début, Juan, qui a été mon stagiaire, mon apprenti, qui est devenu mon commis, ensuite mon chef de parti.
Qui est avec vous en commun aussi, l'Amérique latine.
Oui, voilà, il est né à San José.
Costa Rica.
Costa Rica, et qui est avec moi depuis toujours. Je lui ai dit plusieurs fois d'aller bosser ailleurs, il n'a jamais voulu, donc il n'a jamais.
On comprend. La cantine doit être trop bonne.
Je lui ai dit plusieurs fois, faut que tu ailles bosser dans un resto. Ah non, non, chef, je n'irai pas.
Alessandra Montagne, et Juan va nous montrer dans un instant justement qu'avec les restes d'une carcasse, les petites viandes qu'il y a tout autour des os, mais également cette carcasse, eh bien, on peut la recycler à travers, par exemple, des ravioles.
On va faire des ravioles, ça va être trop bon.
Génial, et ben, ça se passe ça juste après un petit voyage musical entre le Brésil et la France. Ce n'est que de l'eau. Ouais, alors c'est pas vraiment une chanson pour Dominique Hutin.
Je paye.
Mais c'est une chanson signée par le français le plus brésilien de France, c'est Pierre Barou. Bon appétit sur France Inter.
Droit devant moi, je cours les routes en vagabond de grands chemins. Je fuis l'amour et ma déroute. Parfois je verse des pleurs sur mes jours anciens. Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau, camarade. Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau, camarade. Oui, banda, païen, païda, oui, banda, païen, païda. Lorsque l'orage vient, je goûte la terre qui se change en parfum. Et si la pluie pèse ses gouttes, je chante auprès de mon âme, j'en attends la fin. Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau, camarade. Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau, camarade. Quand un obstacle me déroute, je le contourne ce matin. C'est l'océan qui bat ma route. Tant pis, je vais le sauter pour aller plus loin. Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau, camarade. Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau, camarade.
Avec la bande d'On va déguster, on réveillonne chez Alessandra Montaigne dans son petit bistrot Tempero. Avec
on est dans la cuisine, là c'est vraiment, on est serré, la cuisine est toute petite.
Ouais. Parce que c'est un bistrot de poche, il y a seulement il y a 2 dizaines de couverts, hein, pas plus.
Voilà, pas plus, on a une petite cuisine de 4 mètres carrés.
On va justement se pencher sur une stratégie culinaire pour recycler la volaille qui nous reste sur les bras après, en général, un réveillon bien copieux.
Oui.
Il nous reste toujours des cuisses, de l'aile, une carcasse. Qu'est-ce qu'on peut faire avec, surtout, prière de ne pas jeter ces restes de volaille. Donc avec Juan, bonjour Juan.
Bonjour.
On peut imaginer quelque chose de très sympathique.
Tout à fait, on va faire des petites ravioles avec le reste de la chair, on va faire la farce.
Ouais.
Et avec la carcasse, on va faire un bouillon.
Waouh, voilà. Génial.
Donc pour la raviole, on a fait la pâte. C'est très simple, hein. C'est sur une base de 100 g de farine pour un œuf. Un peu d'huile d'olive, un peu d'eau.
Elle est assez sombre cette pâte, vous utilisez une farine
On utilise une farine semi-complète avec du blé rouge.
C'est de la T80, hein. Faut peut-être le préciser.
D'accord, oui, absolument. Voilà. Vous l'avez passé au laminoir, donc on obtient des feuilles de pâte, évidemment, un peu comme des lasagnes. Et là, on a une espèce de carré de 10 cm sur 10, c'est ça à peu près?
Oui, à peu près, oui.
La farce, comment vous la faites?
Alors là, j'ai essayé de récupérer ce que je pouvais sur la carcasse
que vous avez laissé, hein, parce qu'on l'a quand même bien attaqué.
Et je me suis amusé aussi à récupérer la peau, la recouper pour mettre un petit peu de petite croustillance.
Alors il n'y a pas que du poulet, il y a une très jolie brunoise de carottes, il y a un petit légume blanc, là c'est quoi? On dirait, il y a du céleri. Ouais, il y a du céleri et puis des herbes.
Alors on va malaxer, on va prendre un petit peu, on a bien gratté le plat, il y a un peu de jus, là on va mettre dedans.
Bien, oh là là, le jus bien gras, bien foncé.
Le jus bien foncé.
Avec tous les sucs de cuisson.
C'est ça. Est-ce que tu veux mettre peut-être un petit peu de foie? Regarde, malaxe bien le foie dedans, miam miam.
Oh joli. Là, ça malaxe, hein. Oula.
Avec les mains.
Et là, on obtient une farce bien grasse, bien compacte.
Du coup, on reprend notre petit carré de peu près 10 par 10 de pâte de à ravioles. On fait une petite boule dans la main. On met au milieu.
Ouais.
On a un petit bol d'eau. On va faire le tour de la pâte. Donc, on va replier comme ça.
Pour obtenir un triangle.
C'est ça. On replie sur la diagonale. Et on va essayer de partir de la farce pour aller vers l'extérieur pour faire échapper les bulles d'air.
Ah oui.
Et on replie sur les côtés pour faire la petite forme de raviole. Et du coup, on cuit dans l'eau.
Ouais.
Et après, on va servir avec le bouillon qu'on a fait de volaille.
C'est combien de temps de cuisson pour ces ravioles dans le bouillon?
Ah, c'est maximum 30 secondes.
Ah oui, c'est vraiment rapide. Et là, vous disposez ces ravioles dans des assiettes à soupe. Et là, vous avez préparé du coup un bouillon qui a l'air bien gras. Oh là là, ça sent bon dès que vous avez soulevé le couvercle. Qui a été fait justement avec la carcasse de cette volaille qu'on a dégustée.
Tout à fait. On a fait un petit bouillon avec carcasse, oignons, les oignons qu'on fait suer. On met la carcasse. On recoupe la carcasse pour que ça donne bien du goût. Après, les herbes et les épices qu'on aime, qu'on veut. Faut surtout pas hésiter à laisser feu doux le plus longtemps possible. Mais aussi, on peut le congeler.
Etc. Estéra, je sais qu'elle fait des glaçons de bouillon de volaille.
Oui, il ne faut pas les confondre au moment où on fait le pastis, parce que ça fait un peu de gras quand on commence.
En tout cas, Estéra, elle a très hâte de goûter ces ravioles. On va se remettre à table.
Ça marche.
Et vous nous apportez du coup ravioles de restes de volaille de Noël avec ce bouillon qui a été fait avec la carcasse.
Voilà. Merci.
Merci beaucoup, Juan. Merci pour cette petite démonstration
de cuisine anti-gaspi.
Ça sent la citronnelle.
Ah oui.
Ah il y a une petite note de citronnelle aussi.
Ouais. Un petit bâton de citronnelle, c'est une bonne idée. Et ouais, donc on est un peu sur la thématique asiatisante. Merci.
Papai Noel me deu um bom presente de Natal. Você embrulhadinha num papel monumental. Papai Noel me deu um bom presente de Natal. Você embrulhadinha num papel monumental. Quem ganha boneca é menina, eu sei, mas eu sou menino e também ganhei. Não foi uma bola, nem sequer um cavalinho, mas foi você, amor, que veio então pra ser o meu benzinho.
Ravioles de volaille, ce délicieux bouillon qui sent la citronnelle d'ici, là. Je suis à 50 cm de mon assiette. Esther, vous goûtez ?
Il y a un parfum incroyable. Et ça sent la petite touche de gingembre et la citronnelle et la super dominante.
Citronnelle dans le bouillon.
Et elle vient d'où, cette citronnelle ?
Alors, Franck, d'où elle vient, la citronnelle ?
De pas très loin, en fait.
Non, je vais plaisanter.
C'est de la citronnelle locale. Elle est beau être de Madagascar, et ben on l'a fait pousser à Saint-Denis.
Madagascar sur Seine.
C'est ça.
Azote sensible, azote poussée de la citronnelle en permaculture.
Exactement.
Incroyable.
Exactement.
Et puis magnifique, elle arrive longue comme ça. Oh là là, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Parce qu'en plus, il ne me l'a pas dit. Hein. Il ne l'a pas dit. Il est arrivé avec ça, comme ça. Genre, tout va bien.
Sachant
quoi,
que la citronnelle est très cuisinée au Brésil.
Très cuisinée au Brésil. Mais j'ai toujours. Et même, on boit de la tisane à la citronnelle. C'est très, très bon.
Non, mais incroyable quand on disait que Alessandra Montagne.
C'est une surprise, Alessandra, quand
était locavore. Voilà. Et là, ça apporte une fraîcheur, cette note de citronnelle très caractéristique.
Ça évite le côté un peu gras du bouillon, même si c'est ça qui véhicule le goût. Et la touche croustillante de la peau du poulet à l'intérieur de la raviole, là, il y a un effet surprise. C'est moelleux et paf, ça arrive par derrière.
La texture
c'est
de la
très
pâte.
Coquin. Hein
et la texture de la pâte, incroyable.
Beaucoup de céréales.
Vous aviez raison, Esther, d'insister. Ça fait 3 mois qu'elle insiste en disant « On va fêter Noël chez Alessandra Montagne ». Alors, je me suis laissé faire parce que j'étais aussi carrément d'accord. C'est absolument extraordinaire. Les ravioles de volaille à peine avalées, qu'on passe déjà au dessert avec Esther, jet lag assuré.
On va déguster. Sur France Inter.
Esther Payani, après avoir été au sud du continent américain avec Alessandra, et ben on voyage avec vous. Au nord, et on enfile sa doudoune.
Mais oui, parce que pour ce réveillon, moi j'ai mis le cap sur le Canada. Peut-être une association d'idées autour de la bûche, des bûcherons, tout ça. Ou alors ma passion pour le sirop d'érable que je vais enfin pouvoir laisser s'exprimer.
Et votre passion pour les chemises à carreaux aussi.
Aussi, comme ça j'étais dans le look qu'il fallait bien.
Passion pour les bûcherons, quoi.
Vous ne connaissez pas mon mari, Dominique. Et si en France, on a donc Ginette Mathieu, les États-Unis ont Julia Child, est-ce que vous savez comment se nomme la grande dame de la cuisine québécoise ?
Ah non, moi je donne ma langue au caribou.
Eh bien, vous avez gagné. Donc, c'est Jeanne Benoît, de son nom de naissance, Jeanne Patenaude. Hein, elle est l'autrice de l'Encyclopédie de la cuisine canadienne, une somme de 1200 pages, parue en 1963 et vendue à plus d'un 1,5 million d'exemplaires.
Ah oui, best-seller, quoi.
Il y en a une à peu près dans tous les foyers canadiens. Mais en fait, Jeanne Benoît a été bien plus que ça. Elle a eu une école de cuisine, elle a fait de la radio, de la télé, eu un resto. En fait, c'était une véritable pionnière de la pédagogie culinaire. Parce que Jeanne Benoît, c'est du sérieux. Elle était partie à Paris dans les années 20, étudiée au Cordon Bleu, et après, elle est partie faire de la chimie à la Sorbonne.
Wow.
Elle a même travaillé avec Édouard de Pomiane, scientifique fou de gastronomie, l'auteur de Bien manger pour bien vivre, qui a aussi animé des chroniques radio à la TSF. Mais à part la cuisine, son autre passion, c'était le théâtre. Elle était venue à Paris pour ça. Mais on l'a un peu chambrée à cause de son accent. Conclusion, de retour à Montréal, elle a eu la bonne idée de créer une école de cuisine bilingue, joliment nommée le Fumet de la Vieille France, qui a cartonné et formé plus de 8000 étudiants à partir de 1933.
Incroyable.
Elle a aussi créé en 1935 un restaurant 100% végétarien, The Salad Bar, à une époque où ça courait pas franchement les rues.
Donc chimiste, restauratrice, femme d'affaires, elle savait décidément tout faire.
Et c'est pas fini. Après la guerre, elle a commencé des chroniques à la radio, adaptées à la période de rationnement. Bah oui, il y a eu du rationnement au Canada jusqu'en 1947. On l'a ensuite retrouvée plusieurs fois par semaine sur Radio-Canada. Bah en gros comme vous, François Régis. Hein. Mais dans l'émission Femina. Non, pas tout à fait comme vous, je voulais dire. Donc. Ces chroniques, par contre, sont rassemblées à ce moment-là dans des ouvrages qui, eux aussi, ont un grand succès et lui valent de participer à des émissions culinaires aussi du côté anglophone, en Ontario. À ce moment-là, elle tombe amoureuse de Bernard Benoît, un de ses partenaires d'affaires de 13 ans plus jeune qu'elle, et elle le suit à Paris au début des années 60. Et c'est là, à Paris, qu'elle commence l'écriture de sa Bible canadienne.
Une vie trépidante, et dans cet imposant ouvrage, alors on trouve quoi, Estherelle ?
Quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Rassembler la cuisine du Canada et surtout du Québec avec toutes ses influences. Ce qu'elle dit dans la préface, c'est que la cuisine du Québec est donc de tradition française, mais d'inspiration canadienne. Et après, elle va citer les influences indiennes, et puis tout à fait à la fin, les influences anglaises, hein, qui viennent avec la cassonade, la mélasse et les épices. Mais dans ce colossal ouvrage, on trouve à manger et à boire, parce qu'il y a aussi des cocktails, mais il y a aussi les proportions nécessaires à prévoir pour nourrir 50 personnes, y compris pour le café, avec un peu de coquille d'œuf dedans, la méthode pour dépecer une carcasse de bœuf, des méthodes pour les conserver et les confitures, l'art de découper des gâteaux avec économie et élégance, des tableaux de cuisson. Mais pour les recettes, tiens, on va un peu jouer aux devinettes. Par exemple, il y a la recette du pâté chinois.
Wow.
C'est quoi ?
Pâté chinois ?
C'est à base de poutine, non ?
Non, c'est un hachis parmentier avec du blé d'Inde. Le blé d'Inde, c'est l'autre nom du maïs.
Ah oui.
Y a aussi la recette du ragoût de pâte de cochon et boulettes. Ça, c'est une recette de Noël.
Ça, la pâte de cochon, ça pourrait être brésilien.
Oui, ça pourrait être brésilien, ouais. Mais avec la boulette, je sais pas.
Ouais.
c'est pas des pieds de porc qu'il y a dedans, contrairement à ce que moi je croyais quand on m'en servait. C'est des jarrets, la pâte de cochon.
Ah, d'accord.
Il y a aussi la recette de la cossetarde. Ouais.
Ah, ça doit venir de custard.
Yes, custard in English.
Donc
c'est de la crème anglaise, ouais. La custard, c'est the custard en fait. Et il y a aussi des recettes du Sénégal, du Maroc, ça va vraiment tous azimuts. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le côté très pragmatique et précis des recettes, hein, avec des mélanges un peu étonnants. Il y a une sauce pour les crêpes, jus d'orange plus beurre de cacahuète.
Waouh.
Je demande à voir. Il y a aussi une trompette à l'indienne pour le repas de Noël. Pour le repas de Noël à base de crème sûre, donc de crème fraîche, de petits pots pour bébé au pois, de curry et de citron. Bon, donc s'il y a quelqu'un qui teste, vous me direz.
On répète le rationnement finalement.
Et puis finalement, il y a surtout, comme chez Alessandra, le recours à des ingrédients très locaux. Par exemple, la fameuse recette d'écureuil mijoté au vin blanc. Ça, c'est vraiment 100% local et totalement durable.
Vous allez quand même pas cuisiner de l'écureuil,
ça. Non, vous savez bien, c'est pas la saison ici, donc on n'est pas trouvés, ils sont pas assez gras.
Oups,
sauvé. Je me serais pas permis. J'ai plutôt choisi une recette québécoise de saison, tellement d'actualité, le pudding chômeur.
Ah.
Attention, hein, c'est pudding à la québécoise, ça s'écrit pudding, P-O-U-D-I-N-G.
Rien à voir avec un pudding à l'anglo-saxonne d'ailleurs.
Du tout, parce que c'est pas une recette à base de pain rassis, mais un gâteau devenu populaire après la crise de 29, parce qu'il nécessitait pas beaucoup d'ingrédients. D'ailleurs, je vous propose de rappeler ça un pudding gréviste ou un pudding retraité, hein, comme ça marchera mieux, on va le franciser nous aussi. Donc c'était un ingrédient tout simple, et dessus il y avait un sirop d'eau et de cassonade, et la recette de Jeanne Benoît, elle était très fruste d'ailleurs, sans sirop d'érable, qui était trop cher à l'époque. Elle mettait plutôt de la cassonade et du sirop de maïs. Alors j'ai fait quelques recherches et j'ai cherché la meilleure recette de pudding chômeur et tout le monde convergeait vers la recette servie au pied de cochon de Martin Picard, mais qui quand même, les femmes sont toujours de la partie, elle viendrait de Caroline Dumas qui est elle-même restauratrice. Alors la recette, vous la retrouverez sur le site. C'est une couche d'une sorte de pâte à gâteau recouverte d'un fudge caramélisé indécent et comme on dit là-bas, c'est vraiment très cochon.
Avec ce qu'il faut en sirop d'érable, hein, ça explose en bouche. Une conserve complète,
mais c'est pour 10 personnes.
Caractère caramel au lait, un petit peu.
Oui, exactement, fudge. Ouais. Un peu même dulce de leche, on pourrait dire, si on veut rester en Amérique latine. Merci Estherelle pour cette recette de pudding chômeur. Vous aimez ou pas, Alessandra?
Oui, c'est vraiment délicieux. Hein. C'est très, très bon. Ouais.
C'est moelleux.
Ah oui, c'est moelleux. C'est
caramélisé.
Caramélisé, et puis ce côté un peu rond, un peu rassurant, c'est une merveille.
Très sirop d'érable. On peut vraiment identifier la provenance de cette recette, qui est donc signée de Jeanne Benoît. Alors, avec une petite coquetterie orthographique sur Jeanne. Hein.
Oui, ça s'écrit Jeanne, J-E-H-A-N-E. Elle était née en 1904 et morte en 1987.
Merci beaucoup, Estherelle.
Anoitecer, o sino gemer, a gente ficou feliz a rezar, Papai Noel. Se você tem a felicidade pra você me dar, eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. Anoitecer, o sino gemer, a gente você tem a felicidade, papai, pra você me dar um bom presente. Eu pensei que
on va déguster avec François Régis Gaudry.
Et on finit par la touche sucrée de notre hôte, Alessandra Montagne. Là, on passe du sirop d'érable à la pomme.
Oui, on passe à la pomme de Normandie.
Ah, on a attendu longtemps.
Dominique est content, il se réveille.
Donc voilà, c'est tout simplement une tarte tatin. Donc on a pris les pommes, on les a épluchées, on a passé à la mandoline, très très fine.
D'accord. Quelle pomme pour faire cette tarte tatin?
Alors moi j'ai pris de la rainette. Donc avec les épluchures et le milieu de la pomme, on a fait une petite crème qui est délicieuse, que Sandra va amener tout de suite là.
Ouais.
Et on l'a passée à la mandoline et juste dans un moule.
Toutes les pommes à la mandoline?
À la mandoline.
Tranche fine.
Tranche très fine. Tout mis dans un moule à cake avec un petit caramel au fond.
Il n'y a pas de pâte?
Non, il n'y a pas de pâte.
Que du fruit?
Sans la pâte, que le fruit. Et là, donc, je l'ai cuit pendant 2 heures à 170 degrés. Et regardez comme elle est magnifique, elle est caramélisée.
C'est un régal.
On peut le dire, c'est une forme de brique, on peut le dire.
Ah, bah, lingot, c'est dans, de lingot, vraiment.
Voilà, est-ce qu'on oserait de bûche tatin?
Ouais, de bûche tatin. C'est une bûche tatin de couleur ambrée. On sent que c'est, ça a bien confit, compoté. Oh là là, allez, on y va. Et ben, on va se quitter sur ce dessert magnifique et je vous propose quand même de trinquer tous ensemble.
Allez.
Bravo et merci beaucoup Alessandra pour votre accueil.
Vous.
La recette de cette bûche tatin d'ailleurs à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster, ainsi que toutes les recettes de volaille, de ravioles, de pao de queijo signées Alessandra Montagne. Vraiment merci, merci beaucoup. Franck, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2020 à Zone Sensible?
Bah, de la nature, de la culture et de la nourriture.
C'est ça, puisque c'est vraiment un lieu à la croisée de, des voilà. cultures dans tous les sens du terme, la culture du sol, mais aussi la culture de l'esprit.
Tout à fait, c'est là où c'est qu'on invite aussi les gens à venir développer leur imaginaire, leur culture, et puis voir les artistes s'éclater sur les lieux.
Merci Franck Pontier, vous fournissez Merci. D'ailleurs pas mal de beaux restaurants maintenant à Paris, qui sont vraiment à proximité de Tout votre zone de culture.
Voilà, on est local.
Très bien, merci beaucoup Alessandra.
Merci beaucoup,
et on vous retrouvera,
fait plaisir.
On vous retrouvera dans quelques mois chez Nosso, donc.
Chez Nosso, bien
ce
sûr.
Ce sera où? Pas très loin d'ici?
C'est pas très loin, c'est au 22 Promenade Claude Lévi-Strauss. Ça va être un très très beau resto, surtout...
Avec plus de place.
Oui, bah, plus de place, une cuisine plus agréable à travailler, un peu plus grande. Voilà.
Mais en attendant, si vous voulez profiter de la chaleur humaine qu'il y a dans ce petit écosystème qui est Tempero, écosystème humain, social, écologique, culinaire, c'est le petit monde d'Alessandra Montagne, c'est 5 rue Clisson, Tempero.
5 rue Clisson dans le 13e à Paris.
Tempero est fermé pendant les fêtes ?
Oui, Tempero est fermé pendant les fêtes, on revient le 6.
Très bien, merci beaucoup. La semaine prochaine, c'est la dernière émission de 2019 et à cette occasion, on dresse notre bilan gourmand. Des adresses coup de cœur, des lectures nourrissantes, des petites recettes faciles, le meilleur de 2019, à boire et à manger avec 6 chroniqueurs de la bande, Elvira Masson, Arnaud Daguin, Jérôme Gagnès, Éric Morin, Déborah Dupont et Antoine Gerbel. Merci Dominique, merci Estherelle, on vous retrouve pour de nouvelles aventures en 2020.
Oui, mais on a la bouche pleine.
À dimanche prochain si vous avez encore faim, et on se souhaite évidemment tous ensemble un...
Joyeux Noël.
Merci à vous.
Merci.